Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table. David Filippo, West France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Nicolas Mangeard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, salut Pierre Arnaud Bar.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Bar, ça rime avec pignard, ça tombe bien. On va parler d'une décision de l'homme en noir lors de Reims-Nantes qui a fait jaser. T'avais pas ton sifflet en tribune de presse toi, Pab?
Non, pas besoin.
Jamais avec toi. Salut Nicolas Mangeard.
Salut tout le monde.
Avec pignard aussi.
Oui, ça rime aussi avec pignard. Mais si tu veux, Nico, lui, il est plus stoïque dans l'adversité. Il est passé par Rennes, il sait très bien ce que c'est que de traîner la loose toute une saison. Il était préparé. En revanche, un millier de supporters à l'extérieur, ça t'étais un peu moins habitué, je pense.
Ah, je vous signale que j'ai vécu que des saisons européennes à Rennes. Hein, donc, voilà.
Ah non, ça commence à confondre.
Mais franchement, sur le générique, moi, je reste sur galette saucisse. Hein, vraiment, ton truc de Pulp Fiction, ça sert à rien.
Mais on m'a dit qu'il fallait que je me décolle de cette image de Rennes.
Et puis salut David Filippo.
Salut.
L'homme qui ne dort pas en période de mercato. Le mec m'appelle à 3h du mat. T'es au courant pour le Péruvien, pisté pour le 6ème, être le 6ème latéral de l'effectif.
J'aurais pas dû t'appeler pour ça.
Faut arrêter, David. D'abord, il viendra pas, ou il repartira dans 6 mois, et puis on s'en fout.
C'est vrai.
Merci, David. Allez, salut.
Horrible cette période.
Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Shakira.
Waka Waka.
Merci. Allez, danse.
Waka Waka.
Ça fait vraiment une émission musicale maintenant.
C'est quoi, c'est le mondial 2006, ça, non?
Faut se détendre, hein.
C'est Afrique du Sud.
Bien sûr, les Africains bientôt de retour de la CAN. Deux d'entre eux vont déjà revenir. On en parlera à la fin de ce 24e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. Le FC Nantes met un terme à sa mauvaise série avec ce 0-0 à Reims. Faut-il s'en satisfaire ou pas? Un 4-3-3 avec un seul attaquant de métier. Gourvennec a-t-il raison de jouer la défense avant tout? Zézé qui confirme, Bamba éternel remplaçant, Duverne en galère et Kadewere qui manque un péno qu'aurait pu tirer Mollet. On débrief Reims, vous l'avez compris. Les Canaries face à des vents contraires, ce sera notre deuxième partie. Le FC Nantes n'est-il pas respecté en Ligue 1, comme le dit Jocelyn Gourvennec? On débattra de la décision arbitrale sur l'expulsion oubliée ou pas de Darami après la semelle sur Schmert. L'ancien arbitre international Bruno Derrien nous donnera son avis, on l'écoutera. Les Canaries sont dans le dur également avec leurs supporters. Une partie d'entre eux, Mollet et Coco, se sont exprimés sur le sujet. Enfin, le mercato avec le départ surprise de Quentin Merlin. Est-ce une grosse perte pour le FC Nantes ou un braquage à 12 millions d'euros? On a déposé un sondage sur Twitter. Qui pour le remplacer? À droite, Kelvin Amian est arrivé, bonne pioche ou pas? Et puis plus largement, on évoquera ces couloirs qu'il fallait révolutionner à l'occasion de ce mercato. Et les autres cas, Mathis Sabline, Lamine Diack, etc. Les retours de la CAN, je vous en ai parlé. Allez messieurs, à l'image d'un agriculteur devant une préfecture, chacun peut se lâcher dans son contrôle, d'autant que la police vous laissera faire, si la cause est juste, évidemment.
Eh hey, oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non?
Hey, oh, let's go.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Fin de série pour les Canaries, un nul 0-0, un clean sheet pour se rassurer après 4 défaites en Ligue 1 et une équipe très défensive.
Chimes, ça, non?
Oh là là, il est très fort aujourd'hui.
Putain, c'est bon en ce moment. Hey, t'es sûr que t'as pas les réponses avant toi?
Franchement.
Non, mais ça fait les deux podcasts, tu sais tout.
Le titre.
Ah, ça, j'en sais rien.
Voilà, sinon, c'est louche.
Bah,
tu
victoire.
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 Victoire, tout simplement. Dès que tu mets de la variette, Pape, de toute façon, il étale tout le monde. Victoire de Scheim. C'est presque une victoire, ce nul, pour certains. Mentalement d'abord, on va évoquer ce FC Nantes qui s'est remis la tête à l'endroit après ce 0-0 à Reims ou pas. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Nicolas, tu y étais. Est-ce que ça va mieux pour les Nantais après ce match nul?
Défensivement, ça va mieux. Après, moi, j'ai du mal à m'en satisfaire dans la mesure où j'avais été, malgré les défaites, plutôt emballé par ce que l'équipe avait produit contre Clermont et Laval.
Emballé?
Dans le jeu, je trouvais que c'était assez sympa. Ouais,
Que tu viens de Rennes quand même.
Non, mais il manquait la finition, il manquait l'avant-dernière passe, mais au moins, il se passait quelque chose sur le terrain. Là, j'ai trouvé quand même cette équipe très défensive, avec la volonté évidente de se rassurer. Il y a un point, mais moi, ça me laisse un petit peu sur ma faim.
On s'en satisfait qu'à moitié. Voilà ce que dit Nico. Je suis d'accord avec toi en plus sur l'aspect défensif. On va y revenir. David.
J'ai pas trouvé que c'était si défensif que ça, en fait.
Bah, 5 défenseurs, 4 milieux.
Non, mais je te parle dans le jeu. Oui, d'accord. La compo, si vous voulez. Mais après, il y a la composition et ce qui se passe sur le terrain.
T'as combien d'occasions ?
Bah oui.
Je
dis pas qu'il y a une kyrielle d'occasions. Mais il y a quand même des. J'ai trouvé que Nantes était supérieur à Reims dimanche. Après, Reims, ils n'ont pas concrétisé, ils doivent marquer ce pénalty. Et on n'a pas du tout le même discours là. S'il y a ce pénalty qui est marqué par Kadewere, moi je suis persuadé. Mmh. Et vous dites que Nantes s'est vraiment rassuré. Nantes a fait plutôt un match solide et cohérent.
Ah non.
Mais moi,
on dit que Nantes s'est
rassuré. Vous n'avez pas envie de le dire parce qu'il n'y a pas ce but. Il n'y a pas ce pénalty qui est transformé.
Ah oui, c'est le principe du football.
Ah ouais, mais bon, ça joue à quoi ?
Si tu l'emportes 1-0, on dit que Nantes s'est rassuré. Par contre, dans le jeu, on a vu la même chose, que Nantes gagne ou ne gagne pas.
J'ai trouvé que c'était mieux dans le jeu que quasiment sur les derniers matchs, surtout que c'était à l'extérieur, c'était à Reims, qui est jamais facile à jouer, ça fait des années.
Ah, mais ça, c'est offensif, c'est pas le Reims habituel, il manquait la moitié des bons joueurs de cette équipe.
Mais Nantes aussi, dans ce cas-là, il manque aussi tout le monde.
D'accord, bon, c'était un match avec peu de
spectacle. Emballant, mais c'était un match évidemment que c'était chiant à regarder, mais j'ai trouvé que Nantes s'était clairement rassuré, je trouvais que dans le jeu, c'est cohérent ce que Nantes a montré, mais pas emballant.
Pab. Voilà. Oh.
Mais non, mais Nicolas l'a dit, les consignes, de toute façon, on a discuté, enfin. Le coach l'avait dit avant le match, on l'a senti quand on était en bord pelouse avant la rencontre. Le but, c'était surtout de ne pas en prendre, d'arrêter de prendre des buts et de ramener au moins un point. L'objectif là-dessus, il est rempli, mais il ne voulait pas plus.
Ça ne vous rappelle pas le Nantes-Le Havre d'Aristouille où il fallait se rassurer, faire un 0-0, un clean sheet.
De toute façon, on l'a compris en voyant la compo. Hein. Marcus Coco, ailier droit, et Florent Mollet, ailier gauche, ça voulait quand même dire qu'il était...
Le pauvre Kadewere était tout seul devant. Mais regarde le nombre d'occasions. Hein. T'as une tête... hors cadre de Kadewere sur corner en première mi-temps, globalement. T'as le penalty que Bamba va quand même chercher sur un rush et le défenseur rémois, il fait quand même une grosse connerie. Et derrière, t'as quasi rien. Enfin, avec Nicolas, on a quand même parlé plutôt de la pluie et du beau temps à côté et on était en train de se dire comment on va noter les joueurs, on sait pas quoi mettre sur eux et il se passait rien.
Même Pedro Chirivella, David, dit que c'était pas beau à voir.
On était solide, ça faisait un moment qu'on n'était pas solide, c'était peut-être pas trop beau à regarder, mais on voulait être solide ici, on voulait avoir un clean sheet qui nous donne de la confiance et il faut s'appuyer sur ça.
Ils ont décroché ce clean sheet.
J'ai pas dit que c'était beau à voir, j'ai dit que c'était pas emballant, mais j'ai dit que c'était cohérent pour une équipe malade, voilà. Je me suis peut-être mal exprimé.
Oui, mais c'est ce qu'il voulait.
Solide, cohérente. Mais même dans la circulation du ballon, je trouvais que c'est... Après, ça manque de percussion dans les 20 derniers mètres. Ça, c'est pas d'aujourd'hui.
Ça n'a rien passé. Par contre, à chaque fois qu'on la regarde en première mi-temps, ils ont essayé 2-3 fois de ressortir le ballon. En gros, le latéral qui passait au milieu de terrain, qui remettait à l'ailier une sorte de jeu en triangle, ça finissait en touche. Ils l'ont fait 2-3 fois, ça finissait en touche. Et derrière, dès que le ballon arrivait dans l'axe au milieu ou un peu devant, t'as l'impression qu'il savait pas quoi faire et il mettait la balle sur le côté, que ça finissait par un centre qui était repoussé par la défense.
T'as pas les joueurs pour. C'est la compo le péché original. Pour. Le choix en tout cas qui a été fait, Nicolas.
Non, mais c'est un choix assumé qui a été fait par Jocelyn Gourvennec de dire on blinde derrière, on blinde au milieu pour ne pas prendre de but, quitte à faire 0-0. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas et que je l'ai analysé sur les déclarations d'après-match.
On écoute.
Ouais, après, je pense que Calvin Amiens nous a apporté aussi son métier, sa force défensive, c'est important. Jika aussi sur son côté, on est redevenu solide. On faisait trop d'erreurs jusqu'à présent. On en a quasiment pas fait aujourd'hui. Après, ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté. Mais on a besoin d'être beaucoup plus solide défensivement. Après, l'étape d'après, c'est d'être encore plus incisif offensivement. On va récupérer du monde. Les joueurs reviendront de la CAN aussi pour avoir un effectif avec de l'émulation, avec de la concurrence, pour tirer l'équipe vers le haut. Je pense que c'est qu'on a besoin de ça aussi. Mais bon, c'est bien de couper la série négative. C'est bien de prendre un point, de ne pas prendre de but.
Pas prendre de but, prendre un point. L'étape ils d'après. Se sont rassurés. Alors, l'étape d'après, c'est pour quand ? Parce qu'on a eu l'étape d'après de Pierre Aristouille. Bon, il a sauté après le 0-0 face au Havre. Quand il a fallu se rassurer, il l'a fait, mais il n'a plus la confiance de la direction, voire d'une partie du vestiaire. Là, est-ce que Nantes s'est rassuré ? Est-ce qu'on peut imaginer ensuite un Gourvennec un peu plus offensif avec les retours de Benny Traoré ?
Mohamed, surtout samedi.
De Mohamed.
Mohamed samedi, pas Benny Traoré samedi. Hein.
Et Moses Simon, non, dans les prochaines semaines.
Ouais, pardon,
je pense surtout que la configuration du match, quelque part, a aidé ce FC Nantes-là. Mais je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, mais quand tu joues à Lyon, que tu joues Clermont, que tu joues Laval, Nantes était obligé contre ces équipes-là de faire le jeu. Ils étaient supérieurs, tu avais une équipe...
À Lyon
qui... Bah oui, Lyon, ils ont
toujours eu le ballon.
Oui, mais t'es pas obligé de faire le
mais
jeu.
Non, mais parce que
Lyon,
ils étaient relégables, tu venais de battre Nice, t'avais eu Paris entre-temps, mais Lyon était nul. Donc
t'es pas obligé de faire le jeu quand tu vas là-bas, mais après, c'est un choix.
Oui, voilà, mais t'étais au-dessus. tu fais le jeu. Contre Clermont, t'es largement au-dessus, t'es censé faire le jeu. Contre Laval, c'est une Ligue 2, t'es censé faire le jeu. Et cette équipe-là n'en est pas capable, pour moi, aujourd'hui. Et à Reims, qui est sixième du championnat à l'extérieur, tu t'attendais à une équipe de Reims qui allait attaquer. Et en fait, t'as une équipe de Nantes qui a défendu et ça lui convenait parfaitement.
Elle n'a pas fait que défendre.
Non, non, elle n'a pas fait que défendre.
Elle n'a pas eu d'occasion.
Ah, c'est pas pareil. Mais dans l'entrejeu, Nantes était quand même en nombre important avec ce milieu de terrain renforcé.
Et quelles occasions?
Il y a eu un problème.
Non, mais devant, mais il n'y a pas de concrétisation sur les occasions.
Mais ça convenait parfaitement.
Mais Nantes n'était pas acculé par Reims.
Ah non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Mais il y a eu un problème déjà de niveau technique des joueurs, notamment dans les combinaisons quand. Les Nantais se rapprochaient de la surface. Moi, ce qui me dérange en fait vraiment sur ce match-là, c'est que je me répète, alors vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans le jeu contre Clermont et contre Laval. Ça ne s'est pas traduit par des résultats. Et moi, j'ai eu l'impression quand même que du fait d'éléments contraires dont on parlera plus tard, il y a eu cette volonté de se rassurer, alors que moi j'avais envie de continuer à voir cette équipe de Nantes qui va vers l'avant.
Moi aussi.
Et je ne suis pas persuadé que pour gommer les boulettes individuelles, ça soit la bonne solution que de mettre 9 joueurs à vocation défensive.
Et bah pour moi, ça manque un tout petit peu d'ambition. Je suis d'accord avec toi. C'était bien de se rassurer. Mais 3 points en Ligue 1, ça rapporte beaucoup plus que 3 fois un match nul. Il faut 3 matchs pour faire 3 points.
Non, c'est pareil. Nul, 3 fois 1, ça fait 3. Ouais. Une victoire, 3 points.
Il faut 3 matchs pour faire.
Ah oui, d'accord. Voilà. Okay.
Alors que là, tu peux essayer. Puis si une fois sur deux, tu réussis, et bien comptablement, tu es gagnant. Et puis ça fait plaisir aux supporters. J'aurais aimé un petit peu plus d'ambition, même si j'ai compris cette histoire de se rassurer. On va prendre les joueurs dans le match. Pab, Zézé qui confirme, tu l'as bien noté dans Presse Océan. Il a été bon, hein, Zézé, pour sa deuxième titularisation. Tu as mis 6.
Ouais, mais en plus, j'ai trouvé serein. En début de match, tu parlais de lecture sur le pénalty. Faut pas oublier qu'au bout de 5 minutes, tu as Reims qui a une énorme occasion où le mec cadre pas. Peut être mené 1-0, ça te fait un tout autre match. Donc voilà, c'est une parenthèse. Mais à côté de ça, Zézé, il a été bon dans le duel aérien. Il a été serein. Moi, je l'ai trouvé très serein par rapport à son âge. Et quand Schemert sort, c'est lui, le gaucher, qui passe axe droit. C'est pas Nicolas Palois.
Et Palois rentre axe gauche. Ah ouais. Vous imaginez la pression aussi pour Nathan Zézé. Depuis des mois, il est réclamé par les supporters, le centre de formation. Tout le monde parle de lui. Il n'a pas les guibolles qui flanchent au moment de jouer en Ligue 1.
On n'a pas Jean-Marcel qui est là aujourd'hui, qui l'a déjà raconté ici, mais Nathan Zézé, c'est un joueur qui est très très calme. Justement, il est réputé pour ça, justement, pour son immense sérénité. Et là, moi, je l'ai trouvé vraiment en mode patron.
Et on a vu aussi, par bribes, pas assez, mais on l'a quand même vu, ce qu'il pouvait apporter à la relance. Il y a eu quelques fois où il nous a fait des passes de 40 mètres là, dans l'axe,
vers l'avant, un des rares.
Vers ses milieux, et c'était assez intéressant. Je pense qu'il est capable de le faire plus que ça, mais en tout cas, ça change de ce qu'on avait l'habitude de voir en charnière.
Jeu de tête aussi, il peut apporter offensivement.
À revoir, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais à revoir contre une autre adversité, parce que j'ai vraiment trouvé Reims devant, c'était pas impressionnant du tout. Il leur manque, tu l'as dit, il leur manque beaucoup de monde.
L'escouade offensive, les Asiatiques notamment, étaient absents.
Ouais. Donc j'attends de voir, mais contre Toulouse, moi je l'avais trouvé, premier match, souvenez-vous, il jouait avec Pierre Aristou.
Oui, titulaire, première journée de championnat.
Il avait été, franchement, peut-être pas aussi serein que ce qu'il a pu montrer dimanche, mais à revoir en tout cas.
Il faut rappeler qu'il est sorti de l'équipe parce que pas pour des raisons de performance, parce qu'il a eu l'appendicite.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il a eu l'appendicite.
Ouais. Notamment. Et puis il y avait.
Oui, mais après, c'était compliqué. Voilà.
Il va avoir un rôle important, les copains. Il va avoir un rôle important parce que Schemert est blessé. Castelletto n'est pas encore revenu. On va voir dans quel état il est, s'il peut rejouer directement. En tout cas, voilà, il va être dans la rotation et il va jouer Zézé. Et ça, c'est intéressant. On s'arrête très rapidement sur les jeunes parce qu'il y a quand même un changement. Zézé est le symbole de cette volonté. Aristouille ne le faisait pas, je suis désolé. Et Gourvennec le fait. Ces jeunes, ils entrent sur le terrain.
Pourtant, Aristouille, je sais pas, je lis ça partout.
dans un contexte, David, où il y a la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a suspension et blessure, mais on s'interrogeait il y a quelques mois sur l'impossibilité parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. Là, il y en a qui sont partis, le contexte est favorable, mais il utilise cette carte-là.
Non, mais tu parles de contexte, surtout pardon, je prends la parole, mais il les fait rentrer, il les fait rentrer contre Laval en Coupe quand tu es mené 1-0. Donc tu dois aller chercher un résultat.
Boutingham.
On en avait parlé, mais il sort quand même Ablin à un quart d'heure, 20 minutes de la fin pour faire rentrer
Mahmoud et Boutingham.
Voilà, en attaque quand même, c'est un choix fort. Là, t'es à 0-0 à Reims. tu pourrais te dire bah, je vais faire rentrer un mec d'expérience pour, ouais. Pour ben tenir non. le score.
Il ou fait rentrer deux jeunes.
Après, il a personne sur le banc pour...
Oui, il y a des raisons, mais bon, circonstances.
Non, quand tu dis un mec d'expérience, il n'a pas grand monde d'expérience. Je veux dire, c'est l'expérience de Mathis Sablin qui a 20 ans, mais je veux dire, c'est pas... Les jeunes bénéficient d'une situation conjoncturelle, mais on peut reconnaître à Jocelyn Gourvennec une grande constance dans son discours depuis qu'il est arrivé, où il a expliqué qu'il allait intégrer les jeunes. Il l'a fait, il a profité de la CAN pour le faire.
C'est malin vis-à-vis du club.
Moi, j'attends juste de voir ce que ça va donner quand les internationaux africains vont revenir, plus les recrues. Est-ce que certains jeunes vont continuer à se frayer une petite place ou est-ce que ça va s'arrêter ?
Pourquoi tu dis c'est malin ? Tu penses que c'est calculé ?
Je pense que dans les décisions, quand tu fais ce genre de choix, tu prends tous les paramètres en compte. Et dans les paramètres, il y a le bien-être au club. Et c'est important que le centre de formation D'accord. se sente partie prenante ouais. avec le groupe professionnel. Ce sont des messages que tu envoies et qui servent aussi à côté. Donc c'est intelligent dans tous les domaines.
Après, Jocelyn Gourvennec, c'est un coach qui a toujours intégré des jeunes dans tous les clubs où il est passé. Hein. C'est pas son coup d'essai. Donc il sait ce qu'il fait et il est constant et dans son discours et dans ses actes. Et par les temps qui courent, c'est pas toujours le cas.
Ce qui est amusant, pardon, Pablo, je vais prendre la parole, sinon je pourrais jamais parler avec toi, c'est que ce sont des jeunes finalement différents.
C'est exactement
que Pierre,
ce que dire.
Que oui, mais moi je le dis mieux. ce sont des jeunes différents de.
Ah, pourtant, c'est hyper chiant la présence, tu le dis.
Par non, contre, si t'as rien à dire, je te coupe.
Je vais le dire à ta place. C'est que là, tu as Mahmoud et Boutsingham qui rentrent et c'était pas les jeunes qu'on attendait au départ. Voilà, je le dis mieux que toi. Et voilà, par exemple, on avait Apua qui a joué en Ligue 1 la saison dernière, qui a fait plutôt des bonnes entrées, qui d'ailleurs est performant avec la réserve. Et là, tu le vois pas dans l'équipe première.
Non, Freddy Rapa, pour l'instant, est un peu sorti dans l'esprit du coach de la rotation chez les pros. Il a eu quelques...
Qu'il arrête d'être en retard, je crois.
Voilà, il a eu quelques retards. Au stage, par exemple, il y a eu un retard. Bon, il y a eu des petites choses qui font qu'il s'est un peu grippé, mais il doit voir qu'il peut avoir sa chance. Et s'il se remet sur les rails, on compte sur lui.
C'est vrai que Mahmoud et Boutingham, on connaissait pas ses noms.
Et surtout, ça fait quand même des semaines qu'on dit, bah dis donc, peut-être qu'au centre de formation, finalement, il n'y a pas la matière pour entrer en Ligue 1, que hormis bon Apua, il y a personne. Et ben finalement, tu sors des noms qu'on connaissait pas.
Il y a Mongo sur le banc, mais qui est pas rentré. Il y a Mongo et Tabibou, ce nom aussi est sorti. Il était parti en stage en Espagne.
Ça méritera une partie pour rencontrer et découvrir ces jeunes-là. Un mot sur Duverne en galère. Qui veut prendre la parole dessus ? Moi, je l'ai trouvé à côté de ses pompes. J'ai vu le consultant Frédéric Piquion sur ce match de Prime Video dire qu'il avait vu un très bon Duverne. Moi, je le trouve toujours en difficulté, à côté de ses pompes. Alors, il a quelques bonnes interventions dans un match.
Surtout une.
Mais voilà, il ne m'a pas inspiré confiance en l'absence de Merlin sur ce côté gauche.
En fait, ce qui est fou, c'est qu'on en souriait avec Nicolas en tribune, c'est que des fois, je trouve qu'il a des gestes qui ne sont pas ou des attitudes qui ne sont pas des attitudes de joueur de foot. Il y a un moment, il y avait un ballon... en l'air, au milieu de terrain. Mais non, mais.
Des attitudes.
Alors, il est professionnel quand même.
Oui, mais justement. Mais des fois, il a des réactions où tu dis, mais un pro ne doit pas faire ça. Ou même. Le ballon arrive face à lui, il rebondit, et en fait, il se retourne, il regarde son vis-à-vis, il perd complètement le ballon des yeux.
Mais orientation du corps sur son front,
je
ne
sais pas avec quel Nicolas parlait pas en tribune, mais c'était pas moi, tiens à le préciser.
Il lui a jamais dit ça.
Moi je trouve que Duverne, si vous avez besoin d'un latéral qui va faire que défendre et qui va le faire relativement bien sur un match comme ça, ça tient la marée. Moi, ce qui m'embête, c'est que dans l'utilisation du ballon, il a fait des erreurs techniques dans tous les sens. Et c'est aussi une des raisons qui a empêché le FC Nantes de développer du jeu.
Duverne, hein, on a un doute sur ses performances.
Non,
ça va peut-être bouger. Ça va peut-être bouger parce qu'un arrière-gauche arrivera, on en parlera tout à l'heure. Bamba, éternel remplaçant ou pas ? Très rapide, qui prend la parole là-dessus ?
Oui, parce qu'apparemment, il ne peut pas faire plus de 30
Quand on dit on veut davantage
minutes.
D'éléments offensifs, Bamba, tu ne peux pas le faire débuter non, lui, ou il sort à la pause. Quoi.
Soit il fait 40 minutes, tu le sors même au bout de 40 minutes.
C'est dingue.
Ou alors tu le fais rentrer à la fin. Et il était cuit.
Il est intéressant.
Je sais plus qui m'a dit ça. Non, mais il est au bout de 30 minutes. Apparemment, c'était compliqué.
Il s'est éteint sur la fin du match.
Complètement éteint.
Ouais, il va chercher un péno quand même.
Il
va chercher un péno, tu vois. Il te fait
une
différence qui peut faire basculer ce match.
Et moi, je l'avais mis. J'avais imaginé qu'il aurait pu être titulaire sur ce match-là. Bon, Jocelyn Gourvennec a préféré mettre Marcus Coco, ce qui est bien la preuve qu'il ne peut pas mettre Kader Bamba, puisqu'il avait dit que Marcus Coco était plutôt d'assez
bien
défenseur.
Il le voit plutôt comme un remplaçant, de toute façon. Il l'a dit l'autre jour de manière déguisée, mais en expliquant qu'il y avait des joueurs qui étaient des starters et d'autres qui étaient des finisher. On a tous bien compris que Bamba était un finisher.
Éternel finisher, Kader Bamba. Teasing Mercato, pisté par la Turquie, mais lui ne veut pas aller là-bas. Il devrait rester à Nantes, sauf s'il y a
Fin de contrat en fin de saison.
Fin de contrat, il reste.
Il a refusé, pas que la Turquie, visiblement.
Non, non, mais voilà, après, s'il y a une montagne d'or qui arrive, on en rediscute pour Kader Bamba, mais Nantes n'a pas intérêt, on n'a pas beaucoup de genre de percussion à se séparer à 6 mois de la fin de son contrat de ce joueur-là. On termine avec Kadewere, qui manque un péno, qu'aurait pu tirer Mollet. On va l'écouter à ce sujet, Kadewere, nous expliquer pourquoi. C'est pas Mollet qui a tiré.
Oui, j'avais demandé, j'avais besoin juste pour la confiance, pour moi aussi, et j'avais vraiment besoin d'aider mon équipe. En plus, je pense, durant le match, j'étais bien, j'avais fait un bon match, donc j'avais besoin de finir. Je suis vraiment déçu.
Il fallait finir.
Voilà, on peut saluer sa classe quand même d'être venu
s'expliquer au micro.
S'expliquer, en parler, il est super gentil et voilà, c'est... Je trouve que c'est bien d'avoir osé en parler. Il y a plein de joueurs qui seraient sortis en baissant la tête.
Hein. Voilà, il y a pas de procès à faire à quelqu'un qui rate un pénalty. Hein. Voilà, tous ceux qui ont joué, on peut. Ça, à part David, toi, parce qu'on te faisait pas tirer toi les pénaux.
Non, si je les tirais.
Tu as les pigeons au-dessus.
Je suis pas sûr que j'en ai loupé un, même à l'entraînement.
Par contre, la hiérarchie, donc c'est Mollet en 1. Il y a eu ce débat un peu après match.
Il n'y avait pas Mohamed
sur ce match-là, et finalement, il l'a laissé à Kadewere. Bon. Mollet là, était un peu en colère, nous disait le commentateur. Moi, j'ai pas vu.
Non, Mollet nous a dit après.
Qu'on lui ait pris le ballon, mais que Nantes n'ait pas marqué, quoi.
Ah bah après, oui, bah, voilà, il devait tirer. Il nous l'a expliqué. Il dit je devais tirer. Il nous a dit qu'Edouard est venu nous voir. Il est venu me voir. Il m'a dit un mot à l'oreille de personnel. Il voulait tirer. Je suis altruiste. Je lui ai laissé le ballon. Voilà. Et il a dit après. Tout le monde peut louper un pénalty, j'aurais très bien pu le louper, et il n'y a que ceux qui n'en tirent pas, qui n'en ratent pas.
Le FC Nantes, c'est donc rassuré après ce nul et ce clean sheet. On va parler quand même des vents contraires traversés par ces Canaries.
Nicolas Mangeard, Simon Rongoat, Pierre Arnaud Barre, David Filippo. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Les Nantais face à des vents contraires, le FC Nantes n'est-il pas respecté en matière d'arbitrage? Et puis les supporters sont-ils trop durs avec les joueurs?
Arrête à faire.
Ouais, ça j'allais dire.
Respect.
On est trop fort aujourd'hui.
Et ça, c'est de la variété, les gars, ou quoi?
Non, mais je l'avais, là.
Il l'a pas aimé.
Je suis de variété.
Bien sûr. Allez, on en parle du respect et du manque de respect. En l'occurrence, tu me respectes si je te respecte, si tu me respectes, vous connaissez le débat. D'abord, ces décisions arbitrales sur l'expulsion oubliée ou pas de Darami. On va faire un tour de table après la semelle sur Tchemert. Qui veut faire un petit rappel des faits de cette action-là? Tiens, Nico, tu y étais.
Eh bien, notre ami Darami s'offre un petit slalom dans la surface et au moment de frapper, sa jambe vient... Enfin, sa semelle, il frappe. Et en retombant, son pied vient percuter la cheville de Tchemert qui passait par là. Et donc, l'image est assez choquante. Hein,
oui, ça fait un frisson dans le dos. Hein, pour qui a déjà été blessé au foot, on ne peut pas trop voir l'image. Hein.
Et donc, le ballon sort, l'arbitre n'est pas appelé par le VAR. Il y a un espèce de quiproquo qui se passe sur le terrain. Et puis, au bout de quelques temps, alors on voit l'arbitre se mettre la main à l'oreille quand même, mais visiblement pas de faute. Et il explique aux joueurs sur le terrain, notamment à Pedro Chirivella, pourquoi il ne siffle pas. Il va l'expliquer à Jocelyn Gourvennec après ce petit temps. Et il lui réexplique à la mi-temps. Et puis voilà, mais tout le monde est quand même très...
Donc l'explication.
L'explication.
Il se passe quand même 4 minutes.
C'est long,
4 minutes. Et t'as Tchemert qui est au sol et les soignants enlèvent sa chaussette. Je pense que tu vois bien qu'il y a la marque des crampons au niveau de son tendon d'Achille.
Et à aucun moment, M. Pignard ne prend la décision lui-même d'aller revoir les images pour conforter sa décision.
Il a le droit,
bien sûr que si.
Évidemment qu'il a le droit. Quand tu vois que t'as une trace rouge de crampons sur un tendon d'Achille, t'as le droit d'aller regarder.
Mais si le VAR ne lui dit pas.
Si le VAR lui dit ne viens surtout pas voir, on est sûr de nous. Mais sinon, alors il peut dire moi les gars, j'ai envie de vérifier.
Le VAR lui dit non, il n'y a vraiment pas besoin.
David, celui qui est sur le terrain, c'est l'arbitre. S'il sent que les acteurs ont un doute autour de lui et que ça va lui pourrir son match, il peut aller rassurer tout le monde en disant « je vais voir ».
Oui, il peut, bien sûr. Il est en contact permanent de toute façon avec la VAR. Il peut aller vérifier s'il veut. Après, je pense que ni lui ni l'arbitre VAR n'estiment que c'est une action qui nécessite de siffler une faute.
Les explications de Jocelyn Gourvennec sur ce que lui a dit l'arbitre.
Il m'a expliqué qu'il avait appliqué le règlement, à savoir que la directive de la direction technique, c'est que quand c'est un attaquant qui fait ce type d'action, il cherche à marquer. Et donc, l'attaquant qui frappe au but ne peut pas être sanctionné sur ce type d'action, c'est le règlement. Quand c'est un défenseur qui intervient, ils estiment que c'est un excès d'engagement. Voilà, alors on peut le comprendre. On peut comprendre le règlement et qu'il a appliqué le règlement. Seulement, moi, ça manque de cohérence et surtout de bon sens. C'est une faute qui est très importante, un geste qui est absolument pas maîtrisé, involontaire certes, mais comme ça l'est dans tout ce type de tous ces cas de figure, et il y a un joueur qui est blessé et qui sort, et ça, il aurait pu avoir la jambe cassée. Je pense qu'il y a un trou dans la raquette en termes de, au niveau de leur règlement. Il y a la règle et on la comprend, mais dans l'esprit, le joueur doit être sanctionné.
Trou dans la raquette ou pas, cohérence ou pas, on va donner notre avis dans un instant. Mais avant cela, on va écouter Bruno Derrien, l'ancien arbitre international. David, en préparant l'émission hier, coup de fil à Bruno Derrien, qui s'est exprimé sur ce geste-là.
Ouais, les images font mal, on a mal pour le joueur. Hein. C'est un peu comme Benny Traoré. C'est vrai qu'au départ, il frappe dans le ballon Darami, mais au final, il vient percuter, il vient faire une semelle à Schomert. C'est un excès d'engagement qui n'est pas maîtrisé. Si un carton rouge avait été sorti là aussi, je ne m'aurais pas surpris. Quand on compare les deux actions sur Nantes-Clermont, Reims-Nantes, là, on a le sentiment que peut-être sur ces deux actions, il y a un deux poids deux mesures. Je l'apprends, je ne sais pas d'où sort cette règle. La loi 12 sanctionne l'excès d'engagement, qu'il soit d'un attaquant ou d'un défenseur. Ça veut donc dire que des attaquants pourraient commettre des fautes parce qu'ils sont attaquants, donc on ne les sanctionne pas. J'ai du mal à y croire. C'est-à-dire qu'on pourrait permettre un engagement excessif d'un attaquant sur un défenseur et ne pas le permettre d'un défenseur sur un attaquant. Ouais, ben moi, ça m'interpelle.
Alors, on va expliquer ça, ce que nous dit Bruno Derrien, David, parce que c'est le discours qu'a tenu M. Pignard à Jocelyn Gourvennec. On différencie l'action d'un attaquant ou d'un défenseur.
Apparemment, c'est lié à une action, une même action qui avait eu lieu à Reims, je crois, la saison dernière.
C'est ça, à Monaco.
En plus, c'est pas un règlement, c'est pas une règle. En gros, c'est une consigne qui a été donnée. C'est-à-dire que les joueurs, personne n'est au courant, en fait. Hein, même,
suite à cet événement-là.
Monsieur Derrien, c'est un ancien arbitre, mais il se tient au courant quand même de tout ce qui se dit dans le monde de l'arbitrage et dans le football. Lui-même n'est même pas au courant. Les joueurs ne semblent pas être au courant. Donc voilà, sur une action,
pour être concret, ouais. Quand le geste est involontaire et dans la continuité de l'intervention d'une frappe ou d'un dégagement et que tu viens sans faire exprès terminer sur soit le tibia ou sur la cheville, si c'est involontaire de la part d'un attaquant, c'est pas rouge. Si c'est un défenseur, en revanche, c'est rouge.
Oui, mais je comprends.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens.
Vraiment, étonnant. Hein.
Pourtant, je trouve que le foot professionnel repousse un peu les limites de l'entendement à chaque saison. Mais alors là, c'est quand même le truc le plus débile qu'on ait entendu.
Il y a une distinction sur les mains dans la surface pour les attaquants et les défenseurs. Vous savez que ça existe, mais là,
sur ce genre d'action, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire que ça soit volontaire, que ce soit pas volontaire, qu'il ait voulu frapper le ballon, qu'il ait voulu frapper le joueur. Peu importe. Il blesse gravement le joueur. Le geste n'était pas maîtrisé, c'est carton rouge. Il n'y a même pas de débat à avoir.
T'es censé respecter les arbitres, ils sont là pour le jeu et pour respecter l'intégrité physique des joueurs. À partir du moment où l'intégrité physique d'un joueur est compromise, tu dois agir. Ça arrive plein de fois au milieu de terrain où t'as une semelle sur un joueur où l'arbitre attend. Souvent, ça arrive. Tu te dis il va mettre un jaune et puis si le joueur se relève pas. Qu'il est blessé, qu'il doit sortir, des fois l'arbitre change sa sanction et passe d'un jaune à un rouge. Ça arrive. Tu peux dire au signal, au départ, je ne vais pas siffler faute. Et quand tu vois la trace des crampons sur la cheville du mec, tu peux peut-être dire tu changes ta décision.
Est-ce que c'est exactement la même chose que la faute de Benny Traoré, l'attaquant nantais? Il n'est pas en train de frapper.
Pas tout à fait.
Il ne touche pas le ballon, Benny
Traoré. Mais dans les deux cas, c'est rouge. Il n'y a pas de débat à avoir. Il y a une action non maîtrisée qui.
Involontaire, mais très dangereuse.
Oui, mais après, ce concept involontaire, ça veut rien dire. Vous connaissez un joueur, vous, qui volontairement va mettre un coup de savate à un autre?
Ah, bien sûr. C'est Eric Dimeco,
dans le foot actuel, les joueurs ils jouent le ballon et malheureusement parfois le geste dépasse ce qu'ils avaient envie de faire et ça fait faute. Ce concept d'involontaire pour ces gestes là il a aucun sens.
Mais même involontaire c'est rouge.
On peut
être d'accord là-dessus.
C'est Nantes a balancé un communiqué hier.
Ouais. Allons-y.
Après je le connais pas par cœur, mais après la.
Prise de parole est encore pas mal.
Schomert.
Et c'est pourtant Schomert, pas pour parler de ça.
Pour plusieurs semaines, donc ils ont décidé de faire un communiqué qu'ils ont publié aussi aux médias. Et ce matin, donc pour dénoncer les dernières décisions un peu litigieuses sur les trois derniers matchs du FC Nantes, Nantes-Clermont défaite 2-1, Nantes-Laval défaite 1-0.
Penalty oublié ou pas sur Abine,
voilà,
face à Laval.
Contre Clermont,
il y a une main potentielle pour un carton rouge.
Et un coup de coude du gardien
sur
de Clermont. Et puis il y a le carton rouge de Traoré, mais tu l'as dit. Et puis le match de Reims, donc voilà, ils ont interpellé les médias, ils ont fait un communiqué. Et ce matin, ils ont envoyé un mail à la directrice. direction technique de l'arbitrage pour demander, je les cite, des explications.
Voilà. Mais je pense qu'a priori, il y a...
Sur
l'agenda de la DTA, je crois que maintenant, il y aura tous les mercredis, a priori, il y a une audience prévue pour le FC Nantes après chaque match.
Mais ils ont la bonne adresse mail ou pas de la DTA? Parce que c'est peut-être ça le problème.
Parce qu'ils avaient déjà, après le match de Clermont, la défaite de Buzyn, où il y avait eu des actions litigieuses, ils avaient déjà interpellé la DTA.
Est-ce que le FC est mauvais joueur? Est-ce que à Nantes, on fait les ouin-ouin pour essayer de faire un contre-feu? C'est-à-dire, on va parler d'arbitrage pour pas que les autres débats sur la qualité du mercato, des prestations
de l'équipe. C'est pas la même chose. Il y a d'autres clubs qui ont saisi la DTA.
En fait, je vous dis, il y a des supporters qui m'ont dit, vous allez encore parler d'arbitrage, vous avez passé une demi-heure là-dessus. Non, mais c'est vrai que parfois, il y a une période qui est un peu plus difficile en matière d'arbitrage.
Oui, mais Simon,
quand ça facilite la tâche des Nantais, on ne fait pas de débat.
On a pour habitude de pas dire les choses.
Non, mais c'est pas ça, en fait. C'est que si on prend un peu de hauteur, parce que le problème, il est surtout sur la période actuelle du FC Nantes, c'est que on peut pas décorréler les mauvais résultats actuels du FC Nantes des décisions injustes qui ont été prises à son encontre. C'est et c'est pas faire ouin-ouin ou de pleurer sur l'arbitrage. C'est de dire que à 0-0 contre Clermont, il y a un penalty qui doit être sifflé contre Clermont qui n'est pas sifflé. Et forcément, quand vous êtes à 0-0, un penalty, ça change le cours du match. Que contre Laval, à 0-0, il y a un penalty qui doit être sifflé qui n'est pas
sifflé.
Après,
il faut les marquer les penalties.
Oui, non, mais d'accord, mais ça change le cours du match. Et que à Reims, à 0-0, un joueur expulsé qui vous fait passer en supériorité numérique, ça change le cours du match. Donc, sans ces erreurs d'arbitrage, on ne peut pas préjuger de ce qui se serait passé. Donc, c'est normal de prendre ça en compte dans l'analyse de la période actuelle.
On est aussi capable de... Et on l'a dit que le FC Nantes n'est pas en ballon actuellement. On va dire que le mercato, c'est pas simple. Le mercato de l'été dernier a été raté. Tout ça, on le dit. Donc, je veux bien entendre les gens dire « Vous allez encore dire que parler que d'arbitrage ?» Non, là, on en parle. Et Nicolas l'a parfaitement expliqué.
Après, la direction technique de l'arbitrage, malheureusement,
ça sert à rien.
Tu vas pas rejouer le match.
Non, ça sert à rien.
Tu vas pas donner un point à Nantes.
Il y aura pas de conséquences en tout cas en termes de points.
Mais Nantes a raison de faire un peu pression.
Bah je sais pas, Gourvenec avait fait pression avant le match et Monsieur Pignard, il est pas allé voir les images.
Ça n'a rien fait. Bah là, ils ont raison d'en remettre une couche.
Voilà, c'est un jeu médiatique qui peut servir.
Oui, mais si Monsieur Pignard avait vraiment cette directive-là de la part de l'ex-meilleur arbitre de Ligue 1, Anthony Gauthier, c'est quand même très étonnant.
Et là, on va passer dans le registre de la parano sur l'arbitrage.
Juste sur l'arbitrage.
Oui, j'y reste, vas-y.
Non, mais je vais juste dire que Pedro Chirivella a souligné, et je pense Jocelyn Gourvenec aussi, le fait que Jérémy Pignard a été dans le dialogue.
Ouais.
Faut pas non plus lui jeter que la
terre. Très pédagogue.
Voilà, il y a des arbitres avec qui les joueurs peuvent pas parler. Lui, il est venu s'expliquer, comme l'a dit Nicolas, deux fois avec le coach, et il s'est expliqué aussi avec Pedro Chirivella, le capitaine.
Et moi, je trouve que les réactions des Nantais, elles sont très dignes, même Chirivella et Gourvenec.
Avec ce sentiment en fond, c'était un peu carotté sur les deux, trois derniers matchs.
Un peu sentiment d'injustice, mais il n'y a pas de mots qui dépassent les bornes.
Jocelyn Gourvenec a-t-il raison de dire, en gros, quand même, que le FC Nantes est actuellement, globalement, arbitré comme un petit club? Est-ce que les Nantais ne bénéficient pas du même arbitrage qu'un Olympique de Marseille, qu'un Paris Saint-Germain, qu'un Monaco? Vous l'avez entendu quand même.
Oui, j'ai entendu. Mais
Monaco, ils ont de quoi faire moins. Quand tu vois l'expulsion de Maripane au Vélodrome vendredi...
Est-ce que là on est sur de la parano des Nantais, ou c'est juste une mauvaise séquence? Non, et en début de saison on a oublié des décisions favorables au FC Nantes et ça s'équilibre sur une saison. Vous voyez où je veux en venir? Ou là on commence à nous dire non, t'es pas arbitré comme les autres. Est-ce qu'il y a de la parano là-dedans?
Pour moi, Jocelyn Gourvenec, je lui ai posé la question vendredi en conf de presse avant le match à Reims. Je lui ai demandé comment sortir un peu de cette sinistrose. Il a dit il y a trois leviers, c'est le travail de mieux jouer, deux, d'être arbitré normalement, et trois, que les dieux du foot soient avec nous. Moi, je mets le point 2 et 3 ensemble, en fait. C'est que des fois, quand t'es dans une spirale négative, que t'as rien qui va, c'est une série comme ça. C'est quand même hallucinant que t'aies trois matchs de suite avec des situations de pénalty ou de carton rouge, limite. En fait, normalement, on dit sur une saison, ça se lisse, tout ça. Bah, là, ça fait trois matchs de suite.
Oui, mais basculer dans la théorie du complot, parce que ça n'a pas de sens. Mais on peut quand même dire que trois matchs de suite comme ça, je suis pas sûr que ce sera arrivé au PSG.
Voilà
ça
complotisme de Nicolas
Et vous savez, je sais pas, quand on s'intéresse un petit peu au sport en règle générale, on voit bien que bien que dans toutes les disciplines, il y a toujours des petits décalages d'arbitrage en fonction du lieu où se déroule le match, en fonction des équipes. Ça a toujours existé. Et à la limite, c'est presque logique dans la mesure où on parle de l'expression humaine et donc forcément, on n'est jamais à 100%.
Non, mais moi je partage.
Anti-Qatarien, ça y est, ça ressort là.
Messieurs, les Canaries dans le dur également avec leurs supporters. Les joueurs en ont parlé après match. Pape, tu vas nous expliquer le contexte de ces déclarations.
Il est remonté en plus, il est chaud.
Tu veux que j'en mette le contexte ? Moi, je voulais juste dire que j'étais consterné par. Par ça, alors...
Non, faut d'abord qu'on explique pourquoi du comment.
Moi, je suis consterné. Voilà, c'est
il est
dire,
chaud, mais il n'a rien à dire.
Okay, non
mais Pab, contexte. Alors. D'abord, avant match, il y a des chants des supporters nantais qui étaient un millier. Bravo à eux, on l'a dit, de se déplacer aussi nombreux.
Ouais,
qui demandent aux joueurs de se bouger le cul.
Pour moi, le contexte, il remonte au début de l'année, il remonte au match de contre Clermont. Je fais très rapide. Clermont, ça joue mal. Les arbitres sifflent. Ils ont
les supporters
des chants, voilà, pour Pierre Aristouille qui est le martyr du FC Kita, voilà. Défaite, élimination en Coupe de France face à Laval, ils sifflent, Nantais bouge ton cul, et on en a parlé la semaine dernière, les joueurs sont obligés d'aller en tribune de presse écouter le sermon de...
Pas en tribune de presse,
en tribune noire.
Mais bientôt ils vont venir en tribune de presse nous écouter aussi.
Écouter le sermon de David Philippe.
Le sermon, voilà. Et là, avant le match contre Reims, où il y a 1000 supporters rémois, nantais qui sont venus à Reims, dès l'échauffement, il y avait des nantais...
Dans la continuité, bouge ton cul. T'es sur 5 ou 6 défaites sur les derniers matchs.
Ouais. Et derrière, pendant les 90 minutes, ils ont soutenu leur équipe, ils ont allumé des fumigènes, chanté tout le match, et on les a plus entendus que les Rémois, ce qui n'était pas compliqué, parce que le public de Reims, il faut dire, est très, 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 très calme.
Les ultras Rémois ont fait grève en deuxième période, parce qu'ils se sont fait prendre du matos par, je crois, la direction, donc c'est pour ça que c'était silencieux. On me l'a expliqué après, parce que j'ai tweeté qu'on entendait
parce
les Nantais.
C'est vraiment très calme. Ouais.
Les ultras Rémois ont fait une grève en deuxième période.
C'est ce que tu tweets, toi.
Bah oui, mais j'essaie d'expliquer, on m'a donné des précisions.
Voilà, pour finir sur le contexte.
Après match.
Après match. Donc
on va les écouter, hein.
On a Florent Mollet donc, qui est venu pour dire voilà, que lui...
Ah bah attends, bah on l'a pas. Bon, on l'écoute alors, Florent Mollet.
Il faut être objectif quand on parle de football. Et je pense qu'autour de ce club, il y a peu de gens qui sont objectifs. Et ça commence à peser. Donc voilà, je préfère le dire ce soir. Je ne ferai pas plus de déclarations, mais il faut soutenir l'équipe parce que le collectif a un certain travail sur le terrain. Les joueurs qui sont remplaçants aussi sont tous les jours au quotidien avec nous. Ce n'est pas facile pour eux aussi, donc il faut nous soutenir. On se doit de faire mieux, il n'y a pas de problème. Les critiques, on les entend, mais dans une situation comme ça, il faut être avec nous. Et il faut savoir dire les choses comme elles sont aussi.
Il faut savoir dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'objectivité autour de nous. Et il faut nous soutenir, dit Florent Mollet. On va écouter dans la foulée Marcus Coco et puis on réagit à leurs deux interventions.
Je vais faire appel à l'Union Sacrée parce que ça fait des années que ça dure. Donc je pense que toute la France est au courant des problèmes qu'il y a. Il faudrait faire, je pense, un mea culpa général pour réunir tout le monde. Parce que voilà, on sait bien qu'au sein du club, on est tous unis déjà au sein de l'effectif. Donc il faudrait juste que les supporters ils acceptent ce qui se passe là-haut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça va changer. Et qu'ils essaient de voir le positif et qu'ils encouragent le club d'une seule et même fois.
D'une seule et même voix, des encouragements, Union Sacrée à nouveau. Il faudrait que les supporters acceptent ce qui se passe là-haut parce que ça fait des années que ça dure et que ça va rester comme ça. Ça a fait beaucoup réagir ce qu'a dit Marcus Coco. Pab.
Sur Florent Mollet, tu as pris cette partie de son intervention qui était la deuxième partie de son intervention, la première, qui pour moi est la plus importante, c'est qu'il est venu nous parler personnellement du fait qu'il était blessé et touché par les critiques. Il est venu nous dire, moi je suis quelqu'un d'entier et en ce moment je suis personnellement critiqué. Le fait que je suis personnel, et ça me blesse.
Sur ses prestations.
Voilà, et ça me blesse. Après, on connaît les joueurs de foot quand il dit, je ne sais plus comment il dit ça exactement, dire on n'est pas objectif autour du club. C'est le côté de dire on a l'impression des fois d'être critiqué. Je pense qu'aussi, il faut remettre.
D'être trop critiqué par rapport à ce que ça mériterait.
Il faut remettre en contexte. Et en fait, moi, ce qui me concerne, c'est que j'ai voulu faire un article, et Nicolas a fait globalement de même.
Dans Presse Océan.
En mieux quand même. Mais...
Oui,
dans Presse Océan qui a fait beaucoup réagir parce que plupart des supporters ont dit quoi ? Et tu vas répondre, mais la plupart des supporters ont dit il faut arrêter avec ces joueurs qui viennent pleurer comme s'ils ne comprenaient pas le contexte nantais. Et à Nantes, ça soutient beaucoup. Et l'année dernière, ça a soutenu beaucoup. C'est ça que te répondent les supporters.
Moi, c'est mon coup de gueule. Et c'est,
Alors vas-y.
C'est là-dessus que je suis consterné parce que Florent Mollet, il est juste venu dire « Moi, ça me blesse. » C'est tout. Il est venu dire « Moi, je suis blessé personnellement des critiques. » Il a dit aussi, et tu l'as mis dans l'extrait, je les entends les critiques, j'en suis conscient. Nous, journalistes, on note les joueurs, on leur met des 3. Je pense que Mollet, il n'a pas une bonne note. Je crois que j'ai dû lui mettre 3,5 à Reims, voilà, il a raté des choses. Footballistiquement, il n'y a pas de problème. Il y a des critiques.
On parle des critiques des réseaux sociaux, voilà. Des influenceurs, des suiveurs du FC Nantes, pas seulement des journalistes. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs,
joueurs.
Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est ce qui m'énerve aussi, qui critiquent, voilà, qui insultent même, ça va jusqu'aux insultes, parce qu'il y a des insultes dans les commentaires aux critiques, à mon article. Et en fait, les gens ne seront pas là après pour parler avec les joueurs. Lui, Florent Mollet, il prend la peine de venir s'exprimer et juste dire « moi, je suis blessé ». Et en fait, la réaction à ça, c'est « ouais, t'es une pleureuse, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, les supporters ?» Mais pas de problème, moi aussi, j'étais déçu d'être à Reims et de voir un match comme ça. Je préfère voir du beau foot, des victoires. Mais t'as aussi le droit, au milieu de toutes ces critiques, de dire « moi, je suis blessé par ça ». C'est tout.
Ouais,
le contexte, c'est une chose.
Et quand on est dithyrambique, de venir nous dire « n'en faites pas trop, les gars, j'ai pas été si bon que ça non plus ». Non, dans l'autre sens, ça marche pas.
Mais non, et puis ça arrive rarement. Mais non, mais ouais, qu'on soit tous déçus, c'est une chose.
Les gars. Oh là là.
Non, mais qu'on soit. Non, mais en fait.
Il est énorme.
Non, mais moi, je trouve ça grave, en fait. Parce que.
Il va pleurer.
Mais non.
Ah non, j'ai eu peur.
Si, ouais, t'es allé là.
Mais non, mais moi, franchement, je le dis sincèrement.
Non, je suis pas.
Ah, ça t'a touché.
Ouais, moi, je suis touché personnellement parce que je trouve qu'on est dans un monde de violence.
Ah bah oui. Sur les réseaux sociaux.
Mais oui.
Mais Gourvenec l'a dit, les gars, arrêtez de regarder trop les réseaux sociaux.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire.
Vous pouvez aller voir mon compte Twitter, je réagis pas sur les trucs. J'ai pas réagi à cet article-là, alors que pourtant, toutes les réactions, c'était la preuve par l'exemple de ce que dénonçait Florent Mollet.
On revient à ce que dit Marcus Coco, parce que Marcus Coco, il est, à mon sens, un petit peu naïf aussi. Tu peux pas t'extraire de ce contexte nantais, Marcus. Ne regardez pas là-haut, ça fait des années que c'est comme ça. Les supporters qui... On sait que c'est pas possible.
Oui, mais je pense que ce que veut dire Marcus Coco... ce que veut dire Marcus Coco derrière tout ça, c'est que la défiance, appelez ça comme vous voulez, du public à l'égard de la direction, c'est quelque chose qui, sur le long terme... pèse sur le groupe d'une manière ou d'une autre,
ouais.
Et qui fait que si les performances depuis un moment, parce que c'est quand même pas récent que le FC Nantes est une équipe très moyenne, je le voyais quand j'étais à Rennes déjà, blague à part, je pense que c'est quelque chose qui pèse dans la durée, alors c'est difficile à quantifier, mais je pense que c'est cette atmosphère que les joueurs doivent ressentir, même si c'est pas eux qui sont visés par les critiques et ils le savent bien, il y a un contexte qui fait que je pense que eux ils ressentent que c'est plus compliqué pour
Nicolas,
eux de s'exprimer.
Mais tu peux pas dire ça. Mais il y en a qui vont bondir en nous écoutant, Nicolas.
Mais toute la saison dernière,
Nantes est parmi les derniers à galérer. Mais le stade est plein.
Mais c'est pas. Mais c'est pas une question. Simon, je suis pas en train de dire que les supporters nantais n'encouragent pas leur équipe. C'est pas ce que je dis. Au contraire, c'est.
Tu dis que ça peut peser.
Non, ce que je dis, c'est qu'il y a un contexte de défiance permanent de la part des supporters, des suiveurs envers la direction, qui est très certainement justifié, mais qui ne crée pas les conditions optimales pour le groupe de s'exprimer dans la durée. Et on le voit bien, je veux dire, si Nantes est la pire équipe de 2023 en Ligue 1, c'est pas uniquement parce qu'il y avait un coach qui allait un peu trop au golf. Je veux dire, c'est parce qu'il y a sans doute d'autres raisons à chercher. Et
bah lesquelles ? C'est à cause des supporters ?
Moi, je trouve ça intéressant.
Non, mais il dit pas ça.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est pas ce que je dis. Raccourcis.
Bah non, mais qu'est-ce que tu veux dire ?
Je trouve ça intéressant que les joueurs verbalisent une sorte de... pas un mal-être, mais qu'ils arrivent à verbaliser ça et qu'ils essaient d'envoyer le message. Et la manière dont on les reçoit, c'est en gros arrêtez de pleurer, vous êtes payé bien trop cher.
C'est même pire que ça, c'est que les supporters
en fait,
disent
déjà
mais nous,
un petit peu de respect et essayons d'avoir un peu de compréhension de ce qu'on essaie de nous dire, en fait, c'est tout.
Et des supporters disent ah oui, mais nous, on est toujours là, on est encore mis à Reims.
Bah oui.
Mais on remet pas ça en cause, en fait.
Est-ce que ça aide un peu aussi si les tribunes étaient vides? Non, mais entre eux, ce que vient de dire Nicolas est intéressant parce que si les tribunes étaient vides, est-ce que cette équipe-là, ces joueurs-là, avec ce coach, ça jouerait mieux?
Mais non, parce qu'on l'a vu. On l'a vu pendant le Covid.
Ah oui, d'accord. Non, mais c'était parce nul. Que j'avais l'impression qu'on était en train de renverser
mais
le
non.
truc et de dire que le contexte était dû aux supporters.
Mais non, il n'y a pas ça. C'est que les supporters. Les supporters, c'est pas parce qu'ils soutiennent leur équipe que les joueurs doivent. Enfin, ils ont aussi le droit de dire qu'ils sont blessés par les critiques. Ça ne remet pas en cause l'attachement des supporters, leur ferveur, le fait qu'ils soient 1000 à Reims, le fait qu'ils soient 30 000 à la Beaujoire, pas de souci. Sauf qu'en fait,
il y a des critiques.
Les insultes, on a dit qu'on était absolument fragile.
Simon, si je peux préciser ma pensée, en fait, moi je dissocie vraiment le temps du match des 90 minutes et un petit peu avant où les supporters supportent, encouragent, sont géniaux. La Beaujoire, c'est quand même une des plus belles ambiances de France et on le voit à l'extérieur.
Y compris dans la galère, il y a plein de clubs où ça n'a pas souri comme ça.
Mais je dissocie ça qui est évidemment formidable et qu'il faut garder. De l'autre aspect, qui est une atmosphère assez nauséabonde autour du club et qui pour moi n'est pas un facteur qui peut amener à la performance sur le long terme. Je sais pas comment
c'est à cause des supporters.
Je dis que ça c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement.
Je vais me répéter, mais les joueurs, et tu l'as dit tout à l'heure, les joueurs doivent arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur Twitter, le terme nauséabonde a été prononcé. C'est nauséabonde, sincèrement. Moi, je poste n'importe quel papier, mais c'est tout le temps.
Parce que les gens t'aiment pas trop, David.
C'est un endroit, effectivement, c'est même pas à mon encontre. C'est un endroit où la critique est plus facile.
Mais c'est affolant. Voilà. Quand un Merlin, il se fait insulter.
On va en parler parce qu'on va passer au mercato.
Les gens n'ont même pas écouté ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait une très belle ambiance à Nantes, mais il a dit qu'à Marseille, il y avait une ambiance qui était magnifique et il avait envie de se mettre KO, mais il avait aussi envie à Nantes.
Ils ont mis l'un contre l'autre.
J'étais étonné de ces déclarations parce que la semaine dernière, face à Laval, les joueurs sont allés discuter et ils nous ont dit après, on s'est bien entendu avec les supporters, Union Sacrée, on continue ensemble, etc.
Le problème, c'est que les gens, ils ressortent des phrases. Et je pense que mon article, par exemple, sur lequel il y a 250 commentaires de ouais, ils sont nuls, qu'ils arrêtent de chialer. J'ai fait un mea culpa en plus, c'est moi qui titrais en disant touché par les critiques, les joueurs demandent l'Union Sacrée. Les joueurs n'ont pas déclaré. On veut l'Union Sacrée, ils ont dit on voudrait du soutien. Moi j'ai traduit ça comme ça, et en fait ça fait ouais, ils pensent qu'il n'y a pas l'Union Sacrée, l'année dernière on était là et nous on est 30 000 et on a encore 1000.
Mais c'est pas la question.
Et les mecs sortent trois phrases, donc je pense déjà qu'il y a 90% des gens qui lisent pas l'article.
Ils s'arrêtent au titre.
Et qu'ils ont l'Union Sacrée, franchement.
De ceux qui critiquent,
qui n'osent pas faire ça, enfin nous on est là, Union Sacrée. Et ils vont ressortir trois phrases, ils vont ressortir. Parce que t'as des gens qui vont ressortir la phrase de Coco pour dire faut faire fi du contexte de ce qui se passe là-haut parce que c'est pas prêt de changer. Oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est le FC Kita, blablabla. Et ça part là-dessus. Et en fait, le fond de ce qu'ils disent, on s'en fout. On ressort une phrase comme Quentin Merlin qui traduit. Quentin Merlin, il dit juste... J'aime les grosses ambiances, on peut
attends,
pas
attends,
nier...
Attends, 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 Merlin c'est après, on y arrive.
Mais c'est juste l'exemple que tu prends des phrases isolées et t'en fais des débats pas possibles, alors que c'est pas le fond de ce qu'ils veulent dire.
Et en fait, moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que beaucoup de critiques qui sont liées à ça partent du principe que les joueurs sont pas bons parce qu'ils ont voulu pas être bons en fait. Mais vous connaissez un joueur qui quand il rentre sur le terrain, déjà que c'est quand même suffisamment compliqué d'être dans le 11 de départ de l'équipe, vous connaissez un joueur qui sur le terrain va se dire oh non c'est bon là la flemme je vais pas jouer. Je veux dire, montre-moi des exemples d'un joueur
j'ai précisé un truc de Nicolas, c'est que les gens qui parlent là, les joueurs, Florent Mollet, Marcus Coco. Alors Marcus Coco déjà il réagit parce que Florent Mollet a parlé. Oui. Florent Mollet, il est déjà très impliqué lui et ça fait partie des gens qui viennent parler. Faut dire aussi sur 15 joueurs qui jouent entre les titulaires, les rentrants, on voit quoi ? 4-5 joueurs maximum. C'est souvent les mêmes qui viennent parler. Et Florent Mollet, il vient parler. Il fait partie des gens qui sont impliqués sur le terrain. Je pense qu'on peut pas remettre en cause son implication. Et il vient s'exprimer derrière. Il y en a plein qui baissent la tête, qui s'en vont. Bonjour Alban Lafont. Tu vois ? Et lui, il vient parler. Et derrière, il se fait insulter. Après, les joueurs, ils vont dire, moi je parle plus, je m'exprime plus, on n'aura plus personne qui parlera et tu n'auras que des commentaires sur les réseaux sociaux.
C'est pas grave, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais ok, on va juste s'arrêter là en disant que les insultes, de toute façon, elles sont intolérables. Enfin, c'est du football, on se calme. Ça, on est d'accord. Après, les critiques, ça fait partie. C'est un sport qui suscite de la passion. Effectivement, il est blessé par les critiques. Il le dit très bien.
T'as le droit de critiquer.
Les critiques que j'ai vues, surtout, c'est que c'est sur l'investissement. Alors que je peux quand même. Enfin, Florent Mollet, s'il y a bien un joueur qui a investi depuis le début de saison dans le projet de l'équipe, je veux dire, c'est bien.
Non, mais parce que. Alors derrière, dans les débats, vous avez lu comme moi, c'est le troisième entraîneur en un an avec lequel doivent faire les supporters. Donc, ils sont à se dire, ah ouais, il y a une partie du vestiaire qui a lâché. Aristouille, alors maintenant ils sont avec Gourvenec, est-ce qu'ils sont à fond, etc. Il y a d'autres critiques qui sont derrière. Moi je sais pas qui a raison, qui a tort, mais en tout cas le débat il existe. On peut pas juste dire.
Les supporters ont raison, non, Simon?
Non, déjà les supporters, je pense qu'il n'y a pas les supporters, il y a plein de façons de supporter différentes, il y a plein de façons de penser parmi les supporters du FC Nantes. Il y a certains insultes, on a dit qu'on n'en voulait pas. Mmh. Ceux qui critiquent ont le droit de critiquer. Mmh. Ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle ont le droit aussi, David. Enfin, il n'y a pas de
Mais et les critiques, tu as le droit. Et les joueurs, ils ont aussi des gros salaires parce que ce sont des personnes publiques qui s'expriment. Voilà,
les critiques ne doivent intervenir que sur l'aspect footballistique, en fait. On parle de foot, si on critique, c'est parce que la prestation d'un joueur n'a pas été bonne, on explique pourquoi, mais on va pas commencer à s'attaquer à la personne à la personne telle qu'elle est, ça a aucun sens.
Donc, allez, là, le mercato,
donc là,
les
je vous l'annonce, tu vas te faire insulter sur les réseaux sociaux. Voilà.
Mais non, parce que tu sais pourquoi?
Non,
tu sais
c'est
pourquoi?
Du débat.
Parce que l'émission,
parce que
elle dure une heure. Non, parce que l'émission dure une heure et qu'on va pas sortir une capsule de 40 secondes sur ce que je viens de dire. Donc,
ouais,
si, je vais me faire insulter parce qu'il y a quelqu'un qui va écouter le truc et qui va le répéter à une autre personne en disant ah, pas, il dit ça dans le podcast et ce sera sûrement des
petits
a priori, là, tu les as défendus, donc on y va.
Nicolas Mangeart, Simon Rongoat, Pierre Arnaud Barre, David Philippot. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
On a entendu la Brigade Loire, c'est l'anniversaire de la Brigade Loire qui est née en 1999, 30 janvier. Bon anniversaire à la BL, bon anniversaire aussi à Active Nantes, dont ce sont les 10 ans actuellement. On parle du mercato avec le départ surprise de Quentin Merlin à l'OM, grosse perte ou braquage. Kelvin Amian débarque à droite, Mathis Sabine sur le départ. Toutes les infos mercato.
Je suis parti loin pour saisir ma chance.
Patrick Fiori.
Oui,
ouais, Patrick Fiori.
Oh, il est là, Nicolas Mangeart.
Alors le titre, par contre, là, c'est trop bien demandé.
Il vient de le dire, Marseille.
C'est Marseille.
Une bonne grosse chanson.
Je veux pas mettre c'est Marseille bébé, quoi.
Une bonne grosse chanson pourrie pour célébrer le départ surprise de Quentin Merlin à l'OM en plein hiver. Allez, on raconte rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard, les gars. Comment ça s'est joué, David, en quelques jours? Ce fut très rapide. Même si l'attente pour Merlin sur les dernières heures a paru interminable, finalement, en quelques jours, Merlin, hop, a pu FC Nantes direction Marseille.
Là, tu m'as pas demandé de préparer ça. Bah, ça a duré quand même une grosse semaine, quand même.
Oui, mais c'est très court. C'est... Enfin,
oui,
un supporter
oui,
qui est parti.
Ça a été interminable, puisque là encore sur les réseaux sociaux,
non,
il y a des gens qui ont
pour
critiqué
toi,
le mot
interminable.
Non, interminable pour le clan Merlin, parce que le clan Merlin a
cru
qu'il n'allait
pas. Interminable. Mbappé à Madrid, c'est interminable, ça fait deux ans.
Mais le clan Merlin a cru que ça n'allait pas se faire, et Quentin Merlin très vite a voulu aller à l'Olympique à Marseille. En fait, tout simplement, il fallait que Nantes trouve un remplaçant à Merlin. D'ailleurs, ils l'ont toujours pas trouvé. Ils devraient le trouver. On en parlera tout à l'heure. Donc finalement, ça s'est décanté. Franck Kita, je crois que c'est jeudi soir qui a dû appeler le clan Merlin pour dire bon c'est bon, on te lâche, tu peux y aller. Les deux clubs étaient déjà d'accord depuis plusieurs jours sur un transfert d'un montant de 12 millions avec les bonus. Un pourcentage à la revente, je crois. Je confonds peut-être avec un autre dossier.
Pourcentage à la revente.
Et puis, le clan Merlin s'était mis d'accord avec l'Olympique de Marseille sur un contrat de 4 ans et demi et un excellent salaire, hein, puisqu'il fait une belle culbute au niveau salarial. Ils s'étaient mis d'accord, les deux camps, depuis le week-end dernier.
Ouais.
Voilà.
Ouais, au moment du match entre Nantes et Laval. Est-ce que c'est une grosse perte pour le FCN? Un braquage à 12 millions d'euros? On a posé la question dans notre sondage de la semaine, David.
Alors, une grosse perte inattendue, 9%. Il y a eu 2300 votes quand même, hein. Grosse perte inattendue 9%, bien pour sa progression 15%, un braquage à 12 millions 23%. Et le FCN, version Kita, 53%.
Braquage à 12 millions d'euros, ça vous inspire ou pas? Est-ce que 12 millions, c'est bien payé si on s'attarde sur
j'ai
le montant du transfert?
J'ai pas compris la réponse, le FCN, version Kita, c'est...
Bah, c'est-à-dire qu'ils vont un jeune, qui balance un jeune, voilà.
Moi, je trouve qu'à 12 millions, il fallait le lâcher.
Ouais. Bah, moi aussi.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est bien vendu.
Non, je trouve que c'est bien vendu parce que
c'est le
Merlin...
dernier joueur formé au club qui était titulaire quand même, hein.
Oui, mais ça, c'est pas parce que. Oui, mais c'est 12 millions quand même. C'est 12 millions.
Vous avez une offre à 12 millions qui est quand même difficile à refuser. Le joueur qui fait une belle culbute au niveau salarial, qui va dans un club, quoi qu'on en dise, qui attire aujourd'hui quand même, de par son histoire, les
attention,
joueurs.
Attention, il y a une histoire à Nantes. Attention à ce que tu dis. Il y a aussi une grande histoire à Nantes. Non, non, mais je.
Non, mais.
C'est en opposition.
Honnêtement, là, c'est du gagnant-gagnant, et pour le joueur et pour le club, je pense.
Et surtout que Merlin, moi, je trouve qu'il était. Quand on l'a connu à ses débuts, d'ailleurs, il a démarré avec Raymond Domenech en février 2021.
Ouais. Merci Raymond.
Ouais, c'est lui qui le lance en Coupe de France. Il était à l'hôtel à gérer le match, Raymond. Souvenez-vous, Raymond Domenech, puisqu'il avait le Covid.
Et il se fait virer dans la foulée, d'ailleurs.
Et il se fait virer. J'ai trouvé que Merlin, les premiers mois, était excellent. Moi, je trouvais que c'était un joueur qui avait une justesse technique, pardon, assez impressionnante. Enfin, c'était vraiment sympa à voir jouer, toujours propre ce qu'il faisait. Ça défendait toujours des petites lacunes sur le plan défensif, mais je trouve qu'il a pas progressé. Moi, je trouve, sur les derniers mois, je trouve que 12 millions, c'est pour ça que je dis que 12 millions, c'est bien vendu.
Et il faut dire quand même que 12 millions, c'est dans, je crois, le top 5 des ventes du FC. T'as ta Salah à 17, mais bon, t'en as la moitié pour Bordeaux, mais quand même 17.
T'as Diego Carlos
à 15, Valentin Rongier à 13. Et Blas à 15 aussi.
À 15. Voilà. Mais c'est surtout que il a été vendu dans un contexte qui permettait au FC Nantes de se retourner et de trouver une recrue. C'est aussi ça qui fait que
c'est pas fait encore, mais ça va arriver.
Donc le montant du transfert plus l'intérêt pour le joueur plus le fait que le FC Nantes puisse se retourner.
Et puis il y a Jean-Kévin Duvernay.
C'était un bon deal. Hein.
Et puis il y a Jean-Kévin Duvernay à gauche.
Est-ce que c'est une grosse perte sportive pour le FC Nantes selon vous?
Sur les derniers mois, non.
Sur ce poste de latéral gauche où on a toujours dit, je le dis régulièrement, c'était pas son poste, c'est pas un défenseur dans l'âme, il a pas les réflexes défensifs d'un joueur de très haut niveau, en tout cas s'il veut se projeter en équipe de France Espoir, puis plus tard pourquoi pas en bleu. Il est un peu trop court, latéral gauche.
Et puis, je pense qu'il y a un truc quand même, c'est que si le FC Nantes a été très actif sur ses latéraux, c'est aussi sans doute parce que le staff technique n'était pas entièrement convaincu de ce que ses latéraux apportaient, notamment dans les problèmes défensifs de l'équipe. Et alors, même si Quentin Merlin n'est pas celui qui faisait des erreurs flagrantes qui amenaient des buts. Non, mais je veux dire, il n'a pas provoqué de pénalty, il n'a pas fait
des erreurs de placement sur des buts.
Et je crois qu'il faut le dire, Jocelyn Gouvenec aurait voulu monter d'un cran Merlin.
Mais tout le monde, sauf Merlin, voulait.
Mais Merlin, il veut pas parce qu'il y a les JO, donc il y a beaucoup plus de concurrence au JO, faut qu'il reste au poste de latéral gauche. Ouais.
Voilà, il faut voir quelque part aussi l'intérêt du joueur, c'est qu'au-delà du côté Marseille, Jocelyn Gouvenec l'a très bien dit, c'est difficile à refuser en Ligue 1, c'est que pour le joueur, c'est un mec qui est de Pornic, qui est à Nantes depuis gamin, et qui progressait plus beaucoup, qui avait tous ses potes qui venaient tout le temps chez lui, niveau récupération, sommeil, c'est pas forcément bien. Là, de sortir un petit peu de ses pantoufles.
Mais il l'a dit d'ailleurs, je crois, bien, sa présentation à Marseille.
Il fera moins la fête à Marseille, c'est ce que tu nous dis.
Non, je dis.
Potentiellement, oui.
Oui,
hein.
Oui, il y a le côté fête, mais il y a le côté simplement. Ben, on parle tout le temps de préparation invisible, d'entourage, et puis de se mettre en danger. Il progressait plus, je pense, à Nantes.
Un mot rapide, si quelqu'un veut en dire quelque chose, puisque tu l'as abordé tout à l'heure, sur sa première conférence de presse.
Non, c'est moi qui en ai parlé.
Sur sa première conférence de presse à Marseille, il a dit, en substance, de manière un peu maladroite, que parmi les arguments, il y avait le Vélodrome à Marseille en le comparant à la Beaugeoire et qu'il pouvait se mettre KO. Si, il parle de la Beaugeoire.
Non, mais il dit l'ambiance est très bonne, très bien à la Beaugeoire.
Et il dit, ici, je me mets, ça donne envie de se mettre KO, etc. Moi, je pense qu'avec quelqu'un qui lui fait sa com, il suffit juste de pas comparer avec Nantes et de dire qu'il est très heureux.
Il dit que Nantes c'est très bien et il dit ensuite que Marseille il y a 60 000 personnes au Vélodrome, Nantes il y en a 30 000. Bah oui, il y a peut-être parfois un peu plus de bruit au Vélodrome, je sais pas, moi je
non, mais le problème non, mais c'est exactement
c'est
que...
pas déconnant de dire ça
mais
quoi.
Non, mais c'est ce que tu viens de dire en rigolant sur ce que disait Nicolas en disant bah il y a l'histoire à Marseille et tout de suite t'as la plupart des supporters qui vont dire ah bah Nantes il y a pas d'histoire. Mais bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Et si t'écoutes, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est encore une fois une phrase qui est ressortie à l'écrit.
Il faut écouter l'intégralité, c'est ce que j'ai dit sur Twitter.
Quand tu réécoutes la vidéo, quand un Merlin dit au Vélodrome, il y a une ambiance extraordinaire, on va pas le cacher. Je suis pas supporter de Marseille, mais le Vélodrome, c'est quelque chose. Il y a plus de 68 000 personnes à chaque match. Une ambiance de maboule. Je dois dire, en n'étant pas supporter de Marseille, il dit il y a une ambiance de malade et il dit ça fait partie de ces ambiances. Il n'oppose pas à la Beaugeoire.
On va pas non plus débattre.
C'est ça, c'est la comparaison qui est maladroite.
Le mec, il est à Marseille avec des journalistes marseillais, avec le président de Marseille à côté. Il a 21 ans. C'est pas le meilleur communicant du monde.
Il fait une petite maladresse dans la manière d'exprimer ce qu'il voulait dire.
Tout de suite, il se fait
insulter. Ça veut pas dire qu'il crache sur le FC Nantes. Il a été formé au FC Nantes. Il a fait toute sa formation au FC Nantes.
Il a eu une maladresse.
Il est pornique. Il a maintenu le club. Il a gagné la Coupe de France avec Nantes. Il a maintenu le FC Nantes. Il crache pas sur Nantes parce qu'il a signé à Marseille.
Bien sûr que non.
Comme Ludovic Blas.
Il y a une petite maladresse.
Comme Ludovic Blas, il crache pas sur Nantes parce qu'il va au Stade Rennais.
Qui pour le remplacer à gauche? Alors, Aïdara.
Oui.
On est mardi après-midi.
On est dans
les starts pour que ce soit le Lensois Aïdara.
En tout cas, le joueur, ça c'est
important. Onyemaechi, c'est le contre-feu.
Non, c'est un peu le dossier au cas où vraiment Aïdara, ça se fera pas, mais Aïdara, ça va se faire. Et le joueur, surtout, le joueur veut venir à Nantes. Quand vous avez le joueur avec vous, c'est toujours très bon signe.
Puis c'est un joueur, c'est un bon soldat à Lens.
On va prendre l'avis d'un auditeur qui va gagner deux places VIP pour Nantes-Lens dans Sans Contrôle grâce à nos copains de NH8, la marque de streetwear 100% nantaise. On accueille Florian qui a répondu à la question de la semaine sur Twitter. Bonjour Florian.
Bonjour.
Ton regard sur ce mercato d'hiver du FC Nantes?
Alors pour l'instant, au niveau des arrivées, je trouve ça intéressant. Au niveau de Traoré, Kadewere et Amiens.
Ouais.
Je trouve que Amiens, il a fait un bon match contre Reims, après avoir par la suite, mais ça a été costaud. Au niveau de Kadewere, moi je le trouve intéressant, il est juste techniquement et mentalement, malgré le penalty qui a été raté.
Ouais, on l'a dit, ça peut arriver ça.
Voilà, ça peut arriver, mais je trouve que sinon au niveau des passes, au niveau de, c'est juste techniquement. Et Traoré, je le trouve percutant et rapide. Alors c'est dommage, on l'a pas encore trop vu, mais sur les deux premiers matchs, je trouve que c'est intéressant.
On va dire un mot de Kelvin Amiens dans un instant, mais pour finir, sur la fin de Mercato, tu as des attentes particulières ?
Oui, alors je pense que ce qui est impératif, c'est d'avoir un latéral gauche. Ça, ça devient très 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 urgent, parce que c'est vraiment le côté qui nous fait défaut. Et puis au niveau des arrivées, sinon moi je penserais bien à un milieu offensif qui serait capable d'emmener un peu de percussion, un peu de voilà de tempo pour aider les attaquants devant, du style un peu comme Blas, voilà, qui est capable d'éliminer 2-3 joueurs.
Meneur de jeu un peu.
Un meneur de jeu, exactement. Ouais,
c'est le rôle de Pedro Chirivella en ce moment, un cran au-dessus des deux milieux récupérateurs.
C'est ça, c'est un peu son rôle aujourd'hui, mais je trouve qu'il manque un dribbleur, un véritable dribbleur, je pense.
Merci beaucoup Florian pour ton petit clin d'œil. Tu repars avec tes deux places VIP avec NH8 pour ce Nantes-Lens samedi soir. Salut.
Merci beaucoup à vous. Salut.
On continue sur le mercato. Kelvin Amiens, il nous en a parlé. David, tu l'as trouvé comment sur cette première sous le maillot nantais ?
Moi, j'ai trouvé ça très bien. Mais j'avais aussi trouvé Pierre Gabriel en début de saison très bien au poste de latéral droit. Il a disparu. Donc, je pense que c'est un joueur rompu à la Ligue 1 qui ne peut qu'apporter à cette équipe.
Amiens ?
Oui, bah, solide. Il a pas beaucoup perdu de duel et j'ai trouvé qu'il s'est bien projeté offensivement. Je l'ai trouvé intéressant. Une belle qualité de centre aussi.
Ça peut être plus costaud avec Aïdara d'un côté, avec Amiens de l'autre. Nicolas, les couloirs, c'était vraiment la priorité. Il fallait tout révolutionner. Les latéraux, on en parle tous les ans au FC Nantes depuis 4-5 ans. Peut-être qu'on va enfin trouver du solide.
Ah, c'est l'idée, en tout cas, sachant que Duverne ne s'est pas imposé malgré le fait qu'il ait beaucoup joué. Pierre Gabriel a disparu de la circulation. Le FC Nantes a vendu Merlin. Donc voilà, il y a une totale reconstruction sur ces postes-là. On va voir si ça paye et si ça permet vraiment de régler les problèmes défensifs du FC Nantes. Ça exonère pas les centraux quand même de ce qui s'est passé depuis le début de saison, mais bon, moi je suis assez pressé de voir une charnière Castelletto Zézé, ça me hype pas mal.
Castelletto, Zézé, Aïdara, Amiens, il y a quelques mois, franchement, aucun des trois n'était là, il y avait que Castelletto.
C'est le foot moderne.
C'est hallucinant la défense nantaise en chantier.
Tu te rends compte le nombre de latéraux qu'on a eu et c'est en début de saison,
c'est un poste qui est très dur à pourvoir. Hein, des bons latéraux, oui, en fait, des bons de latéraux saison, qui tiennent dans la durée, c'est très très dur. Hein.
Allez, Mercato, on poursuit. David, Mathis Sablin. Alors, on est à nouveau mardi après-midi. Mathis Sablin, dossier refermé ou pas ? Est-ce qu'il va quitter le FC Nantes, faute de jouer ? Gourvenec n'a pas l'air de trop compter sur lui quand même.
Non, mais il a envie de partir, le joueur, parce qu'il sait qu'il n'aura pas de temps de jeu. Il a beaucoup de monde devant lui avec Kadewere. Mohamed, d'ailleurs, qui va revenir jeudi à la Genolière, qui sera dispo pour jouer samedi contre Lens. Il y a également Traoré qui joue dans l'axe, donc on est à 3 joueurs. Et maintenant, il y a même Mahmoud. Ça fait 4 joueurs devant lui. Donc, Sablin veut partir. Il a, comme Nicolas l'a écrit ce matin dans les colonnes de West France, enfin sur le web, on a mis qu'il y avait Montpellier et Clermont qui étaient intéressés. Jocelyn Gourvennec et la direction du FC Nantes ne veulent pas renforcer un
adversaire direct. Bah, c'est normal, c'est assez logique pour les Nantais. Sur Clermont ou sur Montpellier, bon, on est sur des adversaires directs. Non,
il me renforçait avec Ablin, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme.
Clermont plus que Montpellier.
Il n'a pas montré grand-chose, Ablin.
Autre dossier, Lamine Diack. probablement direction la MLS, c'est piste crédible.
Ça devait normalement se faire lundi, je crois.
Il y avait quand même une particularité, il faut le dire, sur ce dossier-là, c'est que le joueur est prêté avec option d'achat automatique en cas de maintien au FC Nantes. Donc en fait, le lâcher, c'était un peu compliqué et la direction a réfléchi, puisque la piste Colorado Rapids est sortie en minute semaine dernière. Et en fait, ils cherchaient la solution. En fait, la solution serait de l'acheter, de lever l'option d'achat et de l'acheter tout de suite pour le revendre tout de suite.
Donc t'achètes et tu revends ou t'achètes et tu prêtes. Mais là, c'est t'achètes et tu revends.
Exactement.
En l'occurrence. Meupillou. Alors, Bastien Meupillou, qui a été opéré, qui est convalescent, on essaye de lui faire prolonger son contrat. On est là-dessus, David.
Ouais, le club essaie de le prolonger. Il est sous contrat encore pendant 1 an et demi. Et il y a une offre de Lens de 5 millions d'euros. Voilà. Ils étaient déjà venus à la charge l'été dernier.
Il n'est pas là, le latéral gauche du FC Nantes ?
Parce qu'il on l'avait vu l'été dernier, c'était franchement intéressant hein, avec Pierre Aristou, il l'avait mis en match de préparation, c'était vraiment pas mal du tout.
Vous imaginez si ça termine avec Mepiyou, Zézé en défense la deuxième partie de saison.
Pourquoi pas ouais.
Avec les débats qu'on a fait il y a quelques mois sur le sujet. Est-ce que ça peut bouger?
Il veut pas aller à Lens, hein, Mepiyou.
Il veut pas aller à Lens. Exactement. Et donc, mais pour l'instant, il a pas prolongé non plus.
Non plus.
Donc, il reste un an et demi de contrat. D'autres dossiers qui peuvent bouger dans les prochains
Bamba, ça frissonne pas mal. A priori, il a refusé pas mal de, notamment la Turquie, il a refusé et d'autres clubs même. Et
pour l'instant, il ne bouge pas. Il y a Santon et Pierre Gabriel dans les dossiers, parce que
Pierre Gabriel peut-être en Amérique du Nord.
Ouais, potentiellement. En fait, Pierre Gabriel, c'est compliqué. De ce qu'on m'a dit, c'est qu'il refuse beaucoup de propositions.
Mais on me dit qu'il n'y avait rien pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose, en fait.
Bah, ouais. On me dit aussi qu'il est aussi compliqué. Et voilà, après, lui, il est vraiment bloqué de chez bloqué, puisqu'il n'était pas au stage à Marbella.
On compte pas sur lui, hein, c'est terminé.
Voilà, au cœur de l'hiver, avant que ça reprenne la phase retour débute. Il n'est pas convoqué en match, donc pour lui, c'est vraiment compliqué. Et il y a Fabien Santonze. Voilà, le Parisien a sorti hier une piste de prêt à Schalke 04, prêt sec. Le FC Nantes, bah, eux, ils préféreraient un transfert pour ce joueur-là.
Non, puis c'est surtout que le FC Nantes ne veut pas prendre en charge, apparemment Schalke ne veut pas prendre grand-chose en charge au niveau du salaire, donc voilà, le FC Nantes n'a pas trop envie de payer le salaire.
Prêt sec, plus tu n'économises pas vraiment le salaire, il n'y a pas trop d'intérêt. Quoi.
Le FC Nantes a jusqu'à jeudi soir minuit pour sortir certains joueurs, un effectif qui est déjà pléthorique et avec peut-être une ou deux d'ici la fin du mercato. Selon ce qui se passe avec Ablin, on peut imaginer qu'il y a un élément offensif qui arrive et puis un latéral gauche.
J'ai vécu beaucoup de mercato depuis 18 ans maintenant, de janvier. C'est l'un des premiers où il se passe autant de choses. Franchement,
et c'est pas fini.
Et c'est pas terminé.
Et ce qui est marrant, c'est que vous vous souvenez que quand au 1er janvier, t'as Traoré et Kadewere qui arrivent, on se dit, oh, dis donc, non, t'as pris de l'avance. Tout est anticipé, c'est super, ça va être calme le reste du mois. Et puis finalement, après, t'as plus rien qui a bougé.
Sur le mercato estival, quand même, c'est fou le nombre de joueurs qui sont partis quand on fait le point.
C'est une catastrophe.
C'est
on l'a dit la semaine dernière.
Vu.
Ça.
Ouais, on l'a déjà dit, mais
on
c'est
fera un bilan
truc
du
de
mercato la semaine prochaine
malade,
et on dira ça très certainement, David. On termine avec un petit clin d'œil à Emers Faye, quand même, le Nantais de Malakoff, qui est à la tête de cette sélection de Côte d'Ivoire. Son premier match, bah, il a éliminé le Sénégal au tir au but sur cette CAN. Castelletto et Mohamed vont revenir. Ça va faire le plus grand bien au FCN. Et puis Moutou Sami continue, lui, de son côté. Le quatrième, c'est qui?
Simon.
C'est Moses. Il va manquer au FC Nantes encore au moins une semaine de plus. À la semaine prochaine, les amis. Merci. Salut.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.